Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Roland Gillet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université libre de Bruxelles, conseiller de diverses entités publiques et privées. Face à vous, Denis Père. Bonjour Denis.
Bonjour Raphaël.
Président de Nature et People First et Eudox Denis. Bonjour Eudox.
Bonjour Raphaël.
Vice-président du think tank Propriété et Liberté. Allez, je voulais qu'on commence par une grande analyse de l'état de l'économie française. On n'arrête pas de dire depuis le début de la crise au Moyen-Orient que c'est compliqué, que ça va mal, qu'il y a beaucoup de vents contraires, bien sûr. Eh bien, il y a cette étude de BPI France Rexecode sur le moral des TPE, des chefs d'entreprise, de très petites entreprises et de PME, qui nous dit ce matin que finalement, ça ne va pas si mal que ça et que les entreprises pourraient être tentées de répercuter dans leur prix de vente les hausses des coûts qu'elles subissent. On est dans une tempête, nous dit de son côté Roland Lescure, mais la France continue d'avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Allez, Denis Père, j'ai envie de commencer avec vous.
Je dirais que c'est rassurant d'entendre effectivement ces nouvelles, mais il y a quand même beaucoup d'autres nouvelles qui sont beaucoup moins rassurantes. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas terminé, malheureusement. On parle même peut-être d'un redémarrage du conflit, une négociation très compliquée avec l'Iran. Les défaillances d'entreprises qui continue, qui augmente en France. Hein, on est sur une tendance annuelle de 70 000 actuellement.
Oui, ça c'était 2025, effectivement, un rapport. Hein.
Et puis surtout, enfin le problème de fond du pays, qui est le niveau des prélèvements obligatoires, qui reste complètement hors norme.
On va en parler.
Délirant.
Et des taxes qui ne rapportent plus grand-chose.
Des taxes qui rapportent plus grand-chose, on va en parler aussi. Et on voit bien que pour boucler le budget de l'État chaque année, il est obligé d'augmenter les prélèvements, et il le fait systématiquement sur les entreprises, comme il le fait depuis toujours, donc avec un surcroît de prélèvements sur les entreprises françaises, qui pèse considérablement sur la capacité d'investissement, sur les marges. Hein, l'excédent brut d'exploitation d'entreprises françaises est très, très documenté par rapport à nos partenaires européens. On est autour de 30% quand la moyenne européenne est à 40%, et ça s'explique par le surcroît de prélèvements.
On a pratiquement 10 points sur les taux de marge entre les entreprises françaises
et les entreprises européennes. C'est documenté par l'Union européenne, par la BCE, c'est effectivement considérable. Moi, j'ai souvent partagé, je fais partie de mouvements d'entrepreneurs européens, oui. Et j'étais toujours frappé de rencontrer des entrepreneurs allemands, autrichiens, italiens, qui m'expliquaient qu'ils faisaient des croissances phénoménales, et je leur disais, mais comment vous faites pour financer cette croissance? Et ils me disaient, on réinvestit les profits. Vous faites appel à des investisseurs, vous faites appel à la bourse, à la banque. Non, on réinvestit les profits. Donc c'est un véritable sujet. Et parce que on sait très bien qu'on a un surcroît de prélèvement en France sur les entreprises à travers deux canaux principalement, les impôts de production et les charges sociales.
Oui.
Et qui est un véritable handicap pour, en particulier, la relance de l'industrie, la réindustrialisation du pays. Et ça reste un sujet majeur. Et donc, on a cette épée de Damoclès qui arrive chaque année où l'État va chercher 30 ou 40 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises qui sont déjà ultra taxées. Et puis là, on voit de nouveau ce débat, en fait, une espèce d'injonction contradictoire où d'un côté, l'État veut prélever toujours plus sur l'entreprise et puis les syndicats et les salariés disent il faut nous augmenter. Donc les marges baissent d'un côté et de l'autre côté, les salariés qui disent il faut nous augmenter. C'est juste pas possible. Et le fond du sujet qui est toujours pas abordé, qui est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est en France, c'est juste l'efficacité de la dépense publique, ou plutôt sa très grande inefficacité en France.
Oui, on va y venir.
Et le fait qu'on doit enfin s'attaquer sérieusement à ce sujet-là. Et selon moi, et on va en parler, j'espère, les baisses qu'on pourrait obtenir par une meilleure efficacité de la dépense publique, elles devraient être affectées en partie à la hausse des salaires des Français. Parce qu'aujourd'hui, la principale raison pour laquelle le pouvoir d'achat des Français est laminé, est écrasé, c'est lié au prélèvement hors normes de l'État français.
Et Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, appelle à une renégociation salariale. On va voir on en discutait tout à l'heure. Hein, les entreprises sont prises dans un étau entre la hausse du SMIC, le gel des allègements de charges et effectivement un environnement assez compliqué. Eudox Denis, là ce qu'on voit, ce que dit l'étude BPI France Rexecode, c'est que certes, évidemment, je reprenais les chiffres, hein, 62% des chefs d'entreprise, donc deux chefs d'entreprise sur trois, dit quand même avoir un impact négatif du conflit sur leur trésorerie ou leurs résultats. Mais ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont repasser cette hausse en réalité dans les prix. Et que c'est aussi l'occasion, parfois, d'augmenter un petit peu sa marge.
Effectivement, alors pour aller dans le sens de Denis Père, hein, je pense que on ne peut que se féliciter de la résistance de l'économie française. Mais moi, je serais pas aussi optimiste que notre ministre de l'économie. La vraie question, c'est jusqu'à quand ? Parce qu'on voit bien que le coût des entrants, il augmente pour les entreprises, du côté de l'énergie, du côté du coût du travail, on voit les déclarations publiques en ce moment sur la remise en cause de des allègements de charges. Le coût de l'investissement, il augmente aussi avec la hausse des taux. Et puis surtout, moi, je veux revenir sur la question des finances publiques, hein, parce que on a vu la situation française qui est quand même assez exceptionnelle. On y reviendra tout à l'heure, mais on a vu surtout que les timides efforts de redressement qui ont été effectués au cours des dernières années reposent essentiellement sur la dépense, et on voit pas comment il pourrait en être sur les recettes, et on voit pas comment il pourrait en être autrement dans les mois à venir. Donc ce que les chefs d'entreprise devraient aussi anticiper aujourd'hui, c'est de futures hausses des prélèvements. Et donc, moi, la vraie question que je me pose, c'est jusqu'à quand. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix, effectivement, que de répercuter cette dégradation de la compétitivité sur des hausses de prix sur les consommateurs.
Et Roland Lescure a déjà préparé la voie à un maintien de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, ceux qui ont les moyens, dit-il, de payer et de participer à l'effort de redressement des comptes publics, effectivement. Professeur Gillet, quand vous comparez la situation de l'économie française avec celle de nos voisins européens, ou peut-être la Belgique, est-ce qu'on vous inquiète, ou est-ce qu'on est finalement à l'image de ce qui se passe ailleurs en Europe ?
D'abord, par rapport à la Belgique, on est inquiet pour nous d'abord, on a des problèmes similaires, on est dans les étudiants, je vais dire, par rapport à Bruxelles qui n'ont pas respecté les convergences, on est en déficit excessif, et plutôt la Wallonie, je suis wallon, que la Flandre, mais enfin, c'est la Belgique unie qui est pointée du doigt, et donc on a les mêmes problèmes, les problèmes géopolitiques. Eux, et ce qui se passe pour le moment, ils touchent toute l'Europe, ils touchent même la Suisse, si vous voulez, qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc là, on est tous face à quelque chose qui n'est
un choc exogène, mais qui nous touche tous de la même manière.
Qui nous gêne beaucoup plus par son incertitude que par le choc lui-même. S'il n'y avait que le choc et qu'on savait combien de temps ça va durer, on saurait beaucoup mieux si les impacts, notamment sur l'inflation, hein, il y a l'inflation des prix de l'énergie, puis après sa transmission au travers, en dehors des produits carbonés, hors de l'énergie qui sont déjà touchés, on verrait si c'est vraiment significatif et s'il y a une hausse générale des prix.
Qu'est-ce qu'on attend pour l'instant ?
Oui,
est-ce qu'on assiste à un choc des prix ou à un véritable choc inflationniste ?
Le problème de l'incertitude crée sur les taux d'intérêt deux choses. Un, des anticipations d'inflationnistes avec des divergences très fortes selon que ça dure peu ou pas. Et le fait que si ça dure plus longtemps, ça a des conséquences sur l'économie et sur les taux d'intérêt dans des pays fort endettés, que sont notamment la France, mais pas que. Et donc tout ça, ça ajoute une dose, en dehors du climat qui n'est pas bon, sur le coût du financement, et vous l'avez rappelé tous les deux également. Donc aujourd'hui, ce problème-là, il est général et il n'est pas que français. Par contre, évidemment, l'écart entre l'Allemagne, le taux d'intérêt j'entends, et donc ce qu'on appelle la prime de risque, et les autres pays, a chaque fois tendance à se tendre. Quand on voit que certains ont les moyens, sans nécessairement s'endetter pour la totalité, ou s'endetter pour la totalité, mais en ayant une marge de manœuvre, de ceux qui sont contraints à le faire, alors qu'ils n'avaient déjà pas de marge de manœuvre avant, la France en fait partie. J'entends marge de manœuvre, la dette était déjà un souci. Si vous rajoutez des éléments indispensables à financer par dette, parce que pas les budgétiser, et que vous dites c'est du long terme, ça rajoute un cran plus élevé, ce qui veut dire aussi que les agences de notation interviennent. Donc, en dehors de l'incertitude sur l'inflation, et je terminerai là-dessus, sur ce volet-là, vous avez aussi une prime de risque qui vient sur l'accroissement de la dette, parce qu'on y met beaucoup de choses dans un climat où on était déjà fort endetté. Et il y a des gens qui disent, oui, mais l'Allemagne met beaucoup plus. Oui, mais l'Allemagne part d'un taux d'endettement qui est beaucoup plus bas.
Donc, l'Allemagne est à 60, quand on est à 115.
Donc, évidemment. Clairement. Et si vous rajoutez en plus tous les problèmes sans les adresser ici de la transition énergétique, où là aussi on a promis beaucoup et où on fait quand même des choses chez nous et pas nécessairement la même intensité ailleurs, on a quand même beaucoup d'éléments structurants sur lesquels on doit agir maintenant, qui sont la défense, en espérant d'ailleurs ne pas s'en servir, ou la transition écologique, en voyant qu'il y en a beaucoup qui disent maintenant on abandonne un peu les choses parce qu'on va avoir une crise sociale à l'intérieur de notre pays avant. Donc clairement, ces éléments-là sont là. Mais je pense que ce qui est le pire aujourd'hui, c'est l'atmosphère générale en France. Je vois notamment en Espagne, puisque j'y vais beaucoup pour aussi, parce que j'y suis depuis la crise, il faut réimpliquer la crise, j'entends, immobilière il y a 15 ans. C'est des gens qui ont fait des efforts, ils les ont perpétués.
Et qui ont
payé. J'ai vu dans la population, vous savez, quand vous êtes expert extérieur, et que vous demandez de te faire des efforts, je comprends quelqu'un dit, c'est facile. Toi, tu retournes en Belgique, tu es taxé en Belgique, donc tu proposes de faire des efforts, mais c'est pas toi qui les subis. Donc, c'est pas très amusant. Et vous doutez que ça soit rationnel ou pas, vous ressortez quand même là-bas, pas très fier. Mais quand vous voyez maintenant que ça marche après le temps, vous dites, ça valait quand même la peine. Mais par contre, ils ont eu une chose que moi, je trouve fou quand même, c'est qu'ils ont fait des efforts à la population qui n'était pas très suivie par rapport au volet qu'ils pensaient que c'était trop dur. Et une fois que les goûts de l'effort ont donné des résultats, pardon, au niveau que les efforts ont donné des résultats, c'est devenu le goût de l'effort par patriotisme, par résultat. Et voilà, l'Espagne qui va beaucoup mieux. Et je voyais, c'est pour ça, parce qu'on parlait avec la France, j'aurais jamais cru à l'époque de la crise en Espagne que aujourd'hui, se passerait le phénomène contraire. C'est-à-dire, avant, les Espagnols étaient contents d'aller trouver des emplois en France, en Allemagne, parce que la crise était très forte. Mais de voir aujourd'hui des gens, et notamment des Français, autour de Barcelone et autour de Madrid qui y vont, et ils ne viennent pas parce que la France est foutue, parce que la France va avoir des problèmes de financement graves tout de suite. Non, ils viennent parce que le climat est délétère vu par eux, sur la logique d'investissement qui demande à avoir une visibilité à long terme, alors que la loi change tout le temps. On a parlé du nombre de lois qu'il y a, et que ça devient toujours de plus complexe de savoir qui va tenir le bateau dans un cap. Et, je dis, dernier mot, ce qui a fait la force de l'Espagne aujourd'hui, c'est le fait que les gouvernements successifs se sont appelés, étant donné les efforts qu'ils devaient faire, à rester dans la même direction. Corriger un peu, mais pas faire du 180 degrés tout le temps. Et donner donc une visibilité aux entrepreneurs dans le domaine de l'investissement. Et ça paye aussi sur le coût de la dette, hein, regardez, aujourd'hui, par rapport à l'Espagne. L'Espagne donc je pense qu'on doit rester positif. Si les choses vont dans le bon sens et qu'on s'y tient, la France a certainement aussi de meilleurs jours devant elle.
On parlait des allègements de charges tout à l'heure. Je voulais qu'on écoute Roland Lescure ce matin au micro de Laure Clausier dans la matinale de BFM Business, qui explique pourquoi il va probablement devoir geler le barème des allègements de charges.
L'euro public, il est rare. Je souhaite qu'on réserve les aides à celles et ceux qui en ont besoin. Donc on va voir ce qui va se passer du côté des salaires. Moi, je ne fais pas d'aide non discriminée aujourd'hui. C'est pas un cadeau à faire à qui que ce soit, et notamment évidemment à nos concitoyens, parce que in fine, tout ça se retrouvera soit en taxes, soit en économie de dépenses, et ça je préfère la limiter, l'une et l'autre.
Bon, voilà, il fait gaffe à l'euro dépensé, notre ministre de l'économie et des finances. On a un budget, une cible de déficit à tenir cette année. Votre avis sur ce débat sur les allègements de charges? Est-ce que c'est normal qu'on gèle le barème au moment où on va augmenter les SMIC?
Moi, je pense que c'est une attitude qui est responsable, effectivement. Mais moi, j'aimerais qu'on l'entende plus sur, encore une fois, un véritable programme de réforme de l'État. Ce qui est positif dans ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, ça a été cette fameuse politique de l'offre qui a plutôt bien fonctionné. On a commencé à baisser enfin les impôts de production qui, je vous le rappelle, sont complètement hors normes en France par rapport à nos voisins européens, Belgique, l'Allemagne.
On a commencé à faire le travail.
Voilà, on est encore pratiquement 3 fois au-dessus de l'Allemagne et pratiquement 2 fois au-dessus de nos voisins européens. Donc, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et donc c'était bien, le constat était le bon. Le problème, c'est que ça a été fait sans ajuster la dépense derrière. C'est-à-dire que ça s'est fait en le finançant par la dette ou par des transferts, le jeu de bonneteau sur d'autres prélèvements ailleurs. Et donc là, il faut enfin s'attaquer à cette fameuse dépense publique excessive qui fait qu'on a 4 à 6 points de PIB de plus de prélèvements que la moyenne de l'eurozone pour faire la même chose que nos voisins et le faire souvent même moins bien. Donc le sujet central, c'est ça. Et moi, j'aimerais effectivement que notre ministre de l'économie et des finances, alors il n'a pas forcément l'attitude politique de le faire aujourd'hui, malheureusement, mais j'aimerais en tout cas qu'on commence à en parler parce que c'est pour moi le sujet principal, c'est la réforme de toutes les réformes, c'est réformer enfin l'État français pour avoir un État qui soit enfin efficace, à un coût normal, avec un niveau de service en plus de qualité. Mais ça n'est pas du tout pour l'instant sur la table. J'espère que ça le sera dans le débat de la présidentielle qui arrive, mais ça n'est pas certain.
Il y a un vrai débat, il y a un vrai bras de fer entre le patronat et Bercy en ce moment sur le gel de ces allègements de charges. Est-ce que c'est normal que l'ensemble des entreprises ne bénéficient pas d'une augmentation des exonérations patronales quand l'augmentation n'est qu'autour du SMIC?
Écoutez, là-dessus, le sujet, je pense que, enfin, il est un peu mal posé. C'est-à-dire que la vraie question, pour rebondir aussi sur le propos de mon voisin, c'est la dépense sociale qui n'est pas aujourd'hui. Enfin, on voit ici le réflexe lorsqu'on cherche des économies, c'est d'aller augmenter les prélèvements via une remise en cause des exonérations de charges. Et à aucun moment on se dit que l'éléphant dans la pièce, c'est la dépense sociale qui ne fait qu'augmenter et sur lequel il y a des choses qui pourraient être faites, notamment dans une période où l'inflation augmente. Ça, c'est intéressant pour les politiques, parce que lorsque l'inflation augmente, on peut désindexer.
Oui.
La désindexation rapporte beaucoup.
C'est un des grands sujets du prochain PLF.
L'éléphant dans la pièce, c'est la dépense de retraite. C'est pas le
Il n'y a pas les exonérations de charges. Bon, Roland Gillet. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système d'indexation de nos allègements de cotisations automatiques sur la hausse du SMIC?
On expérimente ça dans d'autres pays, mais de nouveau, quand on le fait, c'est parce qu'on sait qu'on joue sur la myopie des gens. Ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Je parle de la majorité de la population. Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, désindexer, c'est comme si on relevait, je vais dire, ou qu'on donne un avantage de moins, ou ainsi de suite. Donc, quand on est obligé chaque fois de faire des gestes qui ne sont pas nécessairement bien expliqués ou qui ne montrent pas ce que le coût réel de la mesure, et qu'on fait, je vais dire, un peu un tour de passe-passe en disant, ben, on désindexe, ou bien on indexe les salaires chez nous, on indexe les salaires automatiquement. Et on sait que sur la compétitivité, ben, évidemment, ça a un rôle. Par contre, l'année suivante, qu'est-ce que peut dire chaque fois le gouvernement quand il indexe les salaires par rapport aux autres pays européens qui ne le font pas totalement? Ben, ça veut dire qu'on a un circuit de croissance, évidemment, puisqu'on a donné du pouvoir d'achat. Mais c'est après quelques années qu'on voit si la compétitivité des entreprises est touchée, et si cet effet positif d'une année, il ne se fait pas payer dans le temps plus tard. Parce que vous pensez, plutôt que d'indexer, on pourrait même dire on indexe et on donne un supplément. Parce que quand vous indexez, vous comblez juste l'augmentation du pouvoir d'achat, pas plus.
Ah bah c'est la logique de certains
pays qui n'indexent pas. On voit qu'après les augmentations
d'investissement des centaines de milliards, ça rapportera plus.
Mais voyez, c'est là, parce que vous parliez du phénomène d'indexation, des indexations, c'est quand vous indexez, ben après, forcément, que vous avez indexé plein pot et que les autres pays ne l'ont pas fait, quand ils demandent vraiment une vraie hausse de salaire, les négations sont plus dures et c'est normal, puisqu'on a déjà donné plus qu'on le fait dans d'autres pays. Par contre, les effets négatifs, on les voit après, alors que sur le pouvoir d'achat, on le voit tout de suite. Mais de l'autre côté, si on regarde dans les pays où on n'indexe pas nécessairement les salaires, est-ce que les salaires sont plus bas au total? Non, parce que ne les ayant pas indexés, le pouvoir parfois des syndicats ou de la négociation fait que cette compétitivité meilleure que les entreprises belges se marque aussi, peut-être moins en France puis les prélèvements, par des bénéfices supplémentaires où la négociation se fait entre le patronat et directement les salariés qui disent, bah oui, finalement, on a bénéficié du fait qu'on ne vous a pas indexé, nos biens vendus ont été indexés, on a une marge supplémentaire et on vous les donne, mais au bout du compte, c'est ça que je voulais dire, c'est des tours de passe-passe que dire on désindexe quelque chose, ça fait moins mal parce que les gens ne voient pas tout de suite ce que ça donne, mais au bout du compte, l'un dans l'autre, c'est quand même une mesure qui va dans le sens de ce que vous avez dit qu'il faudrait, c'est-à-dire une mesure claire sur les dépenses de l'État, est-ce qu'on veut y mettre ou pas?
Ben oui, bon, en tout cas, sur cet arbitrage, on en saura plus clair probablement d'ici la fin de semaine. On attend une conférence de presse du Premier ministre jeudi prochain. Allez, il est 9h, passé de 50 minutes, je voulais qu'on avance un peu et qu'on revienne sur les derniers chiffres du secrétariat général du gouvernement, sur la production normative, un des grands mâles français. La loi est-elle trop bavarde malgré les déclarations politiques? Le législateur ne parvient pas à freiner sa production. Le nombre d'articles, de lois et de règlements a continué d'augmenter significativement en 2025. Le nombre de normes en vigueur atteint, tenez-vous bien, un sommet avec 366 999 articles. Précisément. Alors, je sais bien que nul n'est censé ignorer la loi. Je ne sais pas comment on fait avec cette montagne de textes qui nous ensevelissent et qui pèsent évidemment sur la production de richesses. Denis Père, vous êtes très actif aux États-Unis. Est-ce que c'est plus simple aux États-Unis? On la dénonce, moi ça fait 15 ans, 20 ans que j'entends dire qu'il y a un trop-plein de normes, qu'on n'arrive ni à enrayer le flux, ni à nettoyer le stock. Mais est-ce que c'est plus simple ailleurs, finalement?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je peux comparer par rapport à des projets que je développe de stockage d'énergie en France et aux États-Unis. Les procédures en France, pour un projet 100 fois plus petit qu'aux États-Unis, sont aussi longues. C'est-à-dire qu'il faut 4 à 5 ans de processus d'autorisation administrative en France pour faire approuver un projet. C'est le même délai aux États-Unis pour un projet qui est 100 fois plus gros, donc 100 fois plus impactant. Oui. Donc, ça donne une idée, effectivement, des écarts considérables qui existent. Et alors, les raisons, on les connaît. On a une administration qui est très prolifique, effectivement. On a beaucoup de fonctionnaires. On en a plus que dans beaucoup d'autres pays. Et d'ailleurs, enfin, on voit bien, d'ailleurs, que dans les administrations qui sont surpeuplées, comme l'agriculture, par exemple, c'est là qu'on a l'inflation normative la pire. Il faut se rappeler que la population agricole, elle a diminué considérablement ces dernières années, mais dans le même temps, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on a un fonctionnaire pour 4 agriculteurs. Et donc, on se retrouve avec, par exemple...
Les voilà bien encadrés.
Exactement. On se retrouve, par exemple, avec 14 normes différentes sur la taille des haies. 14 normes différentes sur la taille des haies. Enfin, c'est juste délirant. Avec en plus des surtranspositions par rapport aux directives, par rapport aux lois décidées à Bruxelles, les fameuses surtranspositions, en particulier dans le monde agricole, qui fait qu'en plus, nos agriculteurs sont confrontés à une concurrence complètement déloyale, pas juste par rapport aux pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes que le Brésil, l'Argentine et autres, mais également par rapport à nos voisins européens, puisqu'on surtranspose systématiquement avec donc un fonctionnaire derrière quatre agriculteurs. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de dramatique. Ça contribue à une croissance inférieure, à une productivité inférieure, à des marges inférieures. Ça oblige les entreprises à s'entourer de conseils extrêmement coûteux. Alors ça crée
ça nous coûte des milliards.
Ça crée une industrie prospère, très prospère, de consultants qui vivent très très bien.
Ça vous aide à vivre avec ces normes.
Du formalisme, de toutes les sortes d'aides qu'on peut avoir pour respecter effectivement l'ensemble des normes dans lesquelles l'État se noie d'ailleurs lui-même. Il y a souvent des normes qui sont contradictoires. C'est pas rare. Donc il y a des arbitrages qui sont nécessaires. Donc oui, il y a besoin d'une décision. On en a beaucoup parlé, mais ça n'a jamais été fait, du genre pour toute norme nouvelle, on en parle, mais ça n'a jamais été fait.
Comment faire
et la responsabilité d'ailleurs n'incombe pas qu'aux fonctionnaires, elle incombe aussi au Parlement. Enfin, je veux dire, qui rédige au final, qui vote les textes de loi, c'est le Parlement. Ce sont les députés eux-mêmes. Donc la première des responsabilités, elle est entre les mains des législateurs et des parlementaires. Donc c'est à eux de commencer à juste faire attention à arrêter cette diarrhée normative et à enfin contrôler effectivement le nombre de textes de loi et de normes qui sortent chaque année.
Comment on peut réduire le robinet à normes d'Ox-Denis ?
Je pense que ça passe par une réforme de l'État, parce que la raison de la production de la norme, sur les chiffres que vous avez donnés, quand on regarde dans le détail, vous avez 73% de ces textes, c'est des textes d'origine réglementaire.
Oui.
Donc c'est l'exécutif, c'est l'administration.
Donc ça passe pas par la loi. Donc
exactement.
Trois quarts, c'est la production de l'État.
Et pour aller dans le sens de Nipper, effectivement, c'est le fait que la France ait autant de fonctionnaires dont la raison d'être est de produire de la norme explique cette dimension-là. Alors, c'est pas nouveau. Il y a un texte que j'aime beaucoup. C'est un roman un peu oublié de Balzac qui s'appelle Les employés ou la femme supérieure. Et vous avez l'un de ces employés de bureau qui s'appelle Bourdin qui esquisse les contours d'une réforme de l'État. Et tout est déjà là. Il dit l'existence du fonctionnaire, de l'employé à l'époque, comme on l'appelait, c'est de produire du rapport. Juste, c'est de produire de la norme.
Pourquoi
il y a deux raisons pour aller plus loin. Pourquoi il y a une telle production normative? D'abord parce que en France on a du côté de l'administration, de l'exécutif, de la sphère publique dans son sens large, une culture des moyens plutôt qu'une culture du résultat. Et donc la norme c'est aussi un moyen de se protéger, c'est de dire on a tout fait, donc on n'est pas comptable si il y a un problème. Et la deuxième chose qui renforce cette explosion normative, c'est la centralisation. Lorsque vous avez une organisation de la sphère publique qui est plus décentralisée, qui se fonde sur le principe de subsidiarité, vous avez des exécutifs locaux qui sont plus dans l'action, dans la culture du résultat, que dans la production de normes qui, en plus, dès lors qu'on est éloigné du terrain, eh bien, on a un raisonnement qui va être assez abstrait. On va essayer d'envisager un peu tous les cas possibles et produire des textes qui vont être extrêmement bavards. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut avoir plein de mesures qui semblent être du bon sens, où on va fixer des objectifs au ministère, aux administrations, en disant que par chaque norme produite.
Il y a une demande de normes et de sécurisation aussi.
Je vais y venir. Il faut en détruire.
Y compris économique.
Il faut en détruire. Ça marche pas parce que, en fait, on s'attaque pas à la racine du problème. L'autre sujet, c'est effectivement, il y a une demande des acteurs. De la part des entreprises, il y a un conflit entre la volonté de simplifier et puis, le souci aussi de la sécurité juridique.
Eh oui.
On s'aperçoit que parfois, quand le texte est pas assez précis, ça ouvre la porte à l'interprétation. Et alors, compte tenu aussi de la nature de la sociologie de la justice en France, cette contestation, elle n'est pas toujours favorable
au bon
climat des affaires. Voilà, donc je pense que vraiment le sujet, c'est de revenir plus à la racine, et c'est une vraie réforme de l'État qu'il faut engager avec deux principes. C'est une culture de la responsabilité dans les administrations, et puis une décentralisation réelle, c'est-à-dire selon le principe de subsidiarité.
Bon, Roland Gillet.
Oui, si vous ajoutez à ça ce qui est supranational, donc européen...
Et oui, il y a toutes les couches, en plus, qui se superposent.
Les réglementations qui viennent aussi... parfois en contradiction avec ce qui est dans certains pays appliqué, et avec une demande et des dates où les grands pays d'ailleurs s'assoient un peu plus que les petits sur la manière dont ils les implémentent, vous avez évidemment un cafouillage qui est dingue, parce que vous avez parfois même des lois qui existent dans un pays où on dit attention, la loi existe mais ne vous fiez pas à ça, parce que comme on est obligé dans 2 ans d'adapter ce qui va être la règle en Europe, ce n'est que temporaire. Et entre-temps, l'Europe, elle, change encore ce qu'elle avait dit. L'État fait quand même une norme entre les deux en disant « après, je vais quand même appliquer ceci ». Donc, clairement, tout ça réajoute encore, de la problématique. Et puis, beaucoup plus pire que ça, c'est le dumping entre les États. C'est de dire « celui-là l'a implémenté avant moi ». Ça, ça va être plutôt être contre-productif oui. pour lui. Donc, moi, je tarde aussi et j'essaye encore de passer au travers. Aussi, et donc, clairement, c'est ce qui se passe. Et donc, tout ça crée du cafouillage supplémentaire. Et quand la réglementation européenne part avant celle des États, regarder dans le domaine de l'énergie et dans le reste, ce que ça peut donner après comme résultat, où on se rend compte, et Emmanuel Macron a effectivement tout à fait raison d'intervenir, quand il a dit, et tout le monde le savait quand même, je pense, en tous les cas les gens qui connaissent un peu le sujet, que le nucléaire est décarboné, mais ça n'a jamais été autre chose que du décarboné. Je veux bien que de temps en temps, quand il sort d'une centrale nucléaire de la vapeur d'eau, c'est comme les nuages, ça c'est un petit gaz à effet de serre, mais ce n'est pas comme du CO2. Or, c'était un peu comme ça qu'on l'avait mis au départ. Donc, c'est vrai que l'Europe, parfois, fait ça, je ne vous dis même pas en termes d'intelligence artificielle, hein. Pour le moment, on a plus de réglementations que d'entreprises qui sont mondialement reconnues dans le domaine, alors qu'il y en a des tout petites qui pourraient grandir si on les laissait un petit peu grandir.
On a la réglementation, on a les taxes aussi, et beaucoup, beaucoup de petites taxes qui sont nées ces dernières années sans que vraiment elles ne rapportent grand-chose au final. C'est le prochain sujet des experts après une très courte pause de pub, et puis on viendra aussi sur le G7, le G7 Finance, qui clôture ses portes aujourd'hui à Bercy, au ministère des Finances en France, à Paris. Ne quittez pas, on se retrouve dans une courte pause, dans une minute. À tout de suite.